Radio Kasi, Morgen.
Coordonnateur national et président du comité préparatoire national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, Baudouin Amouzi Kabarouza est aujourd'hui l'invité des grands témoins. Merci Baudouin Amouzi d'avoir accepté notre invitation. Avec vous Baudouin Amouzi, au cours de cette émission, nous parlerons d'abord de vous, de votre carrière professionnelle ainsi que de votre fonction actuelle à la tête du comité préparatoire national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région de Grand Lac. Cela ne vous dérange pas? J'espère qu'on vous fasse découvrir auprès de nos auditeurs.
Ça va, je crois que je suis assez bien connu dans plusieurs cercles, au moins au niveau du mouvement associatif du pays, donc je ne suis pas présenté parmi les ONG du pays, mais certainement en tant que responsable de la conférence des Grands Lacs, je passe souvent dans vos antennes, donc les gens me connaissent assez bien, mais peut-être que je peux me présenter un peu plus.
Intéressons-nous d'abord à votre personne, Baudouin Amouzi. Le 4 décembre 1955, vous naissez à Mocho, dans le territoire de Kabaré, au sud Kivu. Votre nom, Kabarouza Amouzi, a-t-il une signification particulière?
Bon, d'abord, Baudouin. Baudouin, certainement. Comme vous savez, la plupart des Baudouins qui sont nés dans les années, fin des années 54, et début des années 55, années 55, de manière générale, les gens qui portent ce prénom sont nés dans l'ambiance de la visite de son Excellence le roi Baudouin, qui était à ce moment venu dans notre pays, qui était le Congo belge à ce moment.
Uh-huh.
Et donc, écoutez, mes parents ont estimé qu'ils étaient suffisamment contents du roi Baudouin pour appeler leur fils Baudouin.
Baudouin.
Et c'est comme ça que je m'appelle Baudouin.
Parlons d'Amouzi.
Amouzi, c'est un nom d'origine swahili, et je crois que ses racines, ça doit être Amri. Amri, c'est aussi d'origine arabe, qui certainement veut dire l'ordre, le commandement. Kabarouza, ça c'est le nom de mon arrière-grand-père.
Uh-huh.
Comme vous savez, je suis le produit aussi du régime Mobutu. Le gouvernement de Mobutu à l'époque avait demandé à tous les Congolais de prendre des noms authentiques. Alors, je m'appelais Baudouin Amouzi et on nous a demandé à l'école, au secondaire, de prendre le nom, un nom authentique. Et alors, j'ai pris le nom de mon arrière-grand-père.
Arrière-grand-père, ok.
Voilà, Kabarouza.
Et ça veut rien dire dans votre langue, Kabarouza?
Ça veut dire, en machi, Kabarouza, ça veut dire aider quelqu'un à porter son poids, sa charge.
Uh-huh.
C'est un peu faciliter les autres à porter leur charge, quelque chose comme ça. Et mon nom, c'est quelque chose comme ça. Alors,
et vous reflétez votre nom?
Vous savez, oui, peut-être que j'aime bien l'ordre et la discipline. Et j'aime bien faciliter aux autres de faire leurs tâches.
Alors, Baudouin Amouzi, parlez-nous un peu de votre enfant. Comment avez-vous grandi?
Eh bien, je suis né à la campagne. Je suis né à quelques kilomètres de Bukavu, dans un village au bord du lac qui s'appelle Mocho. C'est pratiquement à 10 km de la ville de Bukavu. Mon père, qui était un agent de la Bralima, Bukavu, a décidé de quitter la campagne pour aller habiter en ville.
Uh-huh.
Parce que on avait construit Bagira, c'était des maisons toutes neuves, et on demandait à tout ce qui travaillait dans les usines, dans l'administration, d'aller habiter dans ces maisons-là.
J'imagine que vous aviez une belle vie, hein. Vous avez grandi dans de bonnes conditions.
Oui, je crois que j'ai eu une jeunesse qui était... je dirais, par rapport à la majorité des gens de ma génération, elle était certainement bonne, parce que nous sommes la première génération des enfants qui ont grandi dans la ville.
Uh-huh.
La ville de Bukavu. Alors moi, j'ai fait mon école maternelle à Bagira, j'ai fait mon école primaire à Bagira, à l'école Christéroi, j'ai fait mon école secondaire au collège Saint-Paul, chez les Barnabites, et donc je suivis je dirais un processus qui semblait normal pour les enfants de la ville à ce moment-là, et qui étaient des enfants des cadres, des entreprises et des agents de l'administration à cette époque-là, n'est-ce pas, dans toutes les années 60.
Et aux humanités, vous faites quelles études?
Je fais les humanités littéraires, j'adorais les lettres.
Je comprends pourquoi vous parlez bien, Baudouin Amouzi.
Ah, je ne sais pas. Ah, de toute façon, nous avons eu des excellents professeurs de littérature, de latin, de l'histoire, d'histoire, de géographie, d'anglais. Et j'ai donc eu quand même de bonnes études d'humanité.
Après l'obtention de votre licence en pédagogie appliquée, département d'anglais et culture africaine, vous faites des études post-universitaires dans quel domaine ?
J'ai terminé donc à l'ISP Bukavu ma licence et j'avais venu d'obtenir une bourse d'études de 6 mois pour aller étudier l'audiovisuel pour l'enseignement et l'utilisation des laboratoires des langues à l'université de Mons. Je suis donc parti en Belgique pour cela. Mais pendant que j'étais en Belgique, j'ai également eu une bourse d'études pour faire des études à l'Institut international de formation religieuse, de formation de catéchèse et pastorale. Et là, c'était la première année qu'on acceptait des laïcs. C'est une école très progressiste à Bruxelles, à la rue Washington à Bruxelles, qui à la fois fait de l'analyse politique, sociale, économique et l'analyse théologique.
Et là, vous décrochez un diplôme de graduant en sciences religieuses en 1984.
Effectivement.
Vous demandez Mouli, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de votre jeunesse ?
J'ai pas eu beaucoup de temps mort. C'était une jeunesse très organisée. Et à la fois l'internat et pendant les vacances, c'est les clubs de sport. Et là, je fais des arts martiaux. Hein. Je fais le karaté jusqu'à la ceinture noire. et je fais un peu de boxe. Mais j'ai fait beaucoup de karaté. Et j'ai même fondé des clubs à Bukavu. À l'ISP Bukavu, j'ai fondé le club de karaté de l'ISP Bukavu, qui continue, je pense, jusqu'au bassin.
Mais vous avez quand même un souvenir qui vous a marqué.
Ah oui, bien sûr. J'ai plein de copains. J'ai plein de copains dans la ville de Bukavu. On était très actifs. Et moi, j'aime ça. J'adore ça. Travailler avec les groupes, travailler avec les autres, faire la compétition avec les autres. On a fait plein de compétitions de nage, de basket, de karaté. Et on allait un peu partout avec nos clubs à Goma, au Rwanda, au Burundi. J'ai évolué dans ce cercle-là, quoi. Dans les grands lacs dans lesquels j'occupe une responsabilité maintenant à l'heure actuelle. Voilà.
Bonjour, Mouli, est-il marié ?
Oh, oui, bien sûr, je suis marié. Espérance Kadjidje Nabintou, c'est ma femme. On a 6 enfants.
Radio Kaki, Grand Témoin.
Vous suivez le magazine Grand Témoin qui vous présente les acteurs de la vie congolaise dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Baudouin Mouli Kabarouza. Il est coordonnateur national et président du comité préparatoire national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. Baudouin Mouli, parlons un peu de votre carrière professionnelle dans les structures de l'État. De juin 1981 à septembre 1982, vous êtes assistant administratif à l'Institut national d'études et des recherches agronomiques à Mulungu, au sud de Kivu. En quoi consistaient ces recherches agronomiques ?
Je dois dire que c'était une virée assez bizarre. En réalité, l'INERA Mulungu commençait un programme avec l'USAID d'appui à la production, à la sélection, à la production, à la multiplication, à la diffusion des légumineuses, dont le soja. Et en effet, dans ce programme de l'USAID avec l'INERA, on avait besoin de quelqu'un qui avait la capacité d'organiser la vulgarisation des légumineuses dans l'ensemble des territoires du Sud Kivu. Et moi, j'avais eu la chance, comme je vous ai dit, avec cette jeunesse très très active, j'avais été dans presque la plupart des territoires du Sud Kivu, et je connaissais pas mal de gens. Par ailleurs aussi, pendant mes années de licence, j'étais formateur des volontaires du Corps de la Paix. Je travaillais au Corps de la Paix et j'avais été formé dans le programme pour former les volontaires du Corps de la Paix dans le programme de développement communautaire et de l'enseignement de l'anglais. Compte tenu de mon expérience dans le développement communautaire, j'ai sollicité de participer à ce programme de vulgarisation des légumineuses. Et comme l'USAID était en lien avec le Corps de la Paix d'une certaine manière, c'était assez facile dans ces contacts. On m'a appelé assez rapidement pour prendre un poste dans ce programme. Et donc, j'étais engagé à l'INERA. Et mon travail consistait dans dans un premier temps à réhabiliter une sous-station de l'INERA qui s'appelait Nyamunyunye, qui était abandonnée en brousse. Et donc j'ai dirigé pratiquement tous les ouvriers, j'ai engagé les ouvriers, j'ai dirigé tous les ouvriers qui fonctionnaient là-bas. Et j'ai travaillé avec plein de copains, dont ceux qui sont encore là-bas, le directeur Mouzé qui est là maintenant, on était tout jeunes à l'époque, et Lukesou, les Matungulu, les Boué, tous les copains qui ont d'ingénieurs agronomes qui étaient des chercheurs là-bas. On a tous travaillé ensemble là-bas dans une très grande équipe.
On vous retrouve aussi à la Conférence nationale souveraine, hein, comme délégué de la province du Sud Kivu de août 81 à mars 93. Comment vous vous retrouvez dans cette conférence?
Oui, il faut savoir que c'est après l'INERA. Je passais beaucoup de temps à l'INERA. J'ai fait une année et puis je suis parti en Europe. Et donc, au retour, j'ai été professeur assistant pendant une année à l'ISP Bukavu. Mais pendant que j'étais à l'ISP Bukavu, nous avons démarré aussi du travail d'appui aux paysans. Au moment où nous sommes rentrés au Kivu en 1984, nous nous sommes retrouvés, plusieurs d'entre nous, presque de la même génération, qui avions fait des études supérieures ou post-universitaires en Europe. Et nous nous sommes retrouvés au Kivu à une période où il y avait la famine. Certains d'entre nous ont estimé qu'il était absolument important d'organiser pour apporter une réponse pour aider la population à s'en sortir. Et là, je dois dire que son excellence, monsieur le ministre Pierre Lombi à ce moment, venait de rentrer de France également et avait lancé avec d'autres copains Solidarité Paysanne. Et tout de suite, on s'est rencontrés et on a décidé de renforcer Solidarité Paysanne et d'en faire une grande organisation. Moi, j'avais vu plusieurs organisations en Amérique latine. Pendant ma formation en Europe aussi, j'ai voyagé en Israël et en Amérique latine. Et nous avons estimé qu'il était important de donner une force à Solidarité Paysanne. Et donc, tout de suite, on a joint les efforts ensemble et nous avons renforcé Solidarité Paysanne. Et ensemble, avec Lombi, on a donné la force à cette ONG, une structure laïque dans le contexte du mouboutisme, ça n'était pas facile. Et donc, on a donné la force à ça pour travailler de manière indépendante, engagée auprès des paysans. Et bien, plus tard, grâce à une étude que nous avons faite sur les Kivus de montagne, nous nous sommes répartis les rôles. Moi, j'ai décidé de donner la suite à cette étude. Et alors, j'ai créé Adi Kivu, l'association pour le développement intégré au Kivu. Et donc, nous avons eu Solidarité Paysanne, Adi Kivu, et en même temps, le comité qui était appuyé pour lutter contre la malnutrition, qui était appuyé par l'Église catholique, a également pris une structure autonome et s'appelle Comité Antiboati. Trois organisations ont donc émergé, Solidarité Paysanne, Adi Kivu, le Comité Antiboati. Et nous avons, les trois initiatives sont à la base de l'émergence des associations de développement au Kivu. Plus tard, nous avons commencé à aller dans les autres provinces pour encourager, découvrir les initiatives de développement. Au Kivu, nous avons créé le CONG, le Conseil Régional des ONG de Développement. Et plus tard, on a décidé d'avoir le CONG dans tous les pays.
Et c'est dans ce cadre-là que vous vous retrouvez à la conférence.
Et alors, nous avons, entre-temps, fin des années 80, le débat sur la conférence nationale venait. Nous avons estimé que pour la démocratisation du pays, il fallait la visibilité de la société civile dans le pays. Mmh. Et nous avons estimé qu'il fallait lancer des missions dans toutes les provinces pour faire émerger la société civile du pays pour revendiquer la place à la conférence nationale.
Donc vous étiez très actif.
Ah, nous sommes partis, bien sûr, mais il fallait contribuer à la nation, à la démocratisation de la nation.
Vous avez été même arrêté une fois.
On a lutté pour la démocratie à l'époque, dans la lutte pour la démocratie, dans le contexte de la dictature, il fallait s'attendre
à des arrestations.
On vous arrêtait de temps en temps parce que vous aviez fait une manifestation, vous avez protesté contre ceci. On a marché plusieurs fois ici et plusieurs fois on nous a ramenés à l'ANR, interrogés. Puisque nous travaillons pour la nation, et puisque nous travaillons pour les plus pauvres, et puisque nous travaillons pour la démocratie et la justice, nous avons toujours eu gain de cause, fort heureusement. Et nous organisons la société civile pour faire le plaidoyer. Et pour nous, c'était fondamental. On ne peut pas avoir une démocratie sans société civile vivante. Et nous avons dit que c'était important pour nous de renforcer la société civile, de lui donner des méthodes de combat, des méthodes de travail, des méthodes de plaidoyer, l'organiser la société civile autour des camps dans le pays, les coordinations de la société civile à travers le pays. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la conférence nationale avec des délégations venant de la société civile venant de toutes les provinces que nous avions aidé à coordonner.
Et toujours dans votre parcours professionnel, vous êtes passé aussi par le Haut Conseil de la République, vous avez été vice-ministre de l'Agriculture et Développement Rural dans le gouvernement de transition, élu par la conférence nationale souveraine de mars 1993 à décembre 1993. Donc vous avez fait 6 mois seulement à ce poste.
J'étais dans le gouvernement Tshisekedi. Bien entendu, ce gouvernement n'a pas marché et j'avais été élu aussi comme membre du Haut Conseil de la République.
Depuis 2003, vous êtes coordonnateur national et président du comité préparateur national de la Conférence nationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. En termes simples, quelle est la mission de cette structure que vous dirigez actuellement?
Oui, j'ai eu la chance, après le dialogue intercongolais de Sam City, où d'ailleurs j'avais estimé que ils m'ont porté peu de participer aux institutions de la transition comme cela avait été offert à la société civile. Et moi, j'ai préféré continuer l'action, le travail. J'étais le secrétaire exécutif du Conseil national des ONG, entre-temps, depuis 1991 jusqu'à 1999. Pendant que j'étais là, j'ai travaillé. Les gouvernements ont estimé quand même que peut-être que j'étais un poids lourd de la société civile qui aussi avait la responsabilité de contribuer à cette transition et à la paix dans le pays. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a proposé de prendre ce poste de coordonnateur national de la Conférence des Grands Lacs pour contribuer aux efforts de stabilité de notre pays, puisque j'étais très engagé dans le domaine de la paix, dans le domaine de la démocratie, dans le domaine du développement.
Vous faites partie de la société civile?
D'ailleurs, j'ai été choisi comme délégué issu de la société civile. Le comité de la Conférence des Grands Lacs est un peu assimilable à une institution de la transition. Et comme vous savez, à cette époque, ces institutions d'appui à la démocratie étaient confiées à la société civile. Et donc, cette institution-là qui avait été créée pour contribuer à la paix dans la région, la stabilité, la pacification avec les États voisins, on a estimé qu'on pouvait le confier.
Et puisque nous parlons de la paix, on va évoquer la situation de l'Est de la RDC. Vous êtes coordonnateur national de la Conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs. Brièvement, pouvez-vous nous dresser un bilan de la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs?
Oui, tout à
brièvement.
Fait. Oui, très brièvement. Le pacte comprend 4 sections. Dans la section paix et sécurité, il y a des efforts énormes qui ont été faits. Vous avez le pacte maintenant est opposable à tous les États de la région des Grands Lacs. Et le pacte a été utilisé comme le cadre légal pour la mise en œuvre des opérations conjointes. Les opérations conjointes entre l'Ouganda et la RDC pour attaquer la LRA et les opérations conjointes entre la RDC et le Rwanda pour attaquer les FDLR littéralement. Et ça, pour moi, c'est important. Deuxièmement, dans le cadre du pacte, il fallait relancer la CPGL. La CPGL est en route. Le procès de Tumbawa est déjà là, comme vous le savez. Donc, nous sommes déjà embarqués. Et avec la CPGL, il fallait absolument accompagner la normalisation des relations diplomatiques. Maintenant, comme vous le savez, aujourd'hui, les ministres de la Défense sont en réunion ensemble. Donc, ils continuent toujours dans cette dynamique de stabilisation que le pacte, dont le pacte a créé le cadre. Et c'est très important.
Est-ce que vous pensez que la relance de la CPGL va aider à consolider la paix dans cette partie?
Absolument, il n'y a pas de doute là-dessus. La CPGL, comme cadre commun entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, est formidable. Comme vous savez, il y a eu énormément de méfiance entre nos États. Et la CPGL, déjà, puisque nous avons décidé de les relancer ensemble, va permettre de renforcer la confiance entre nous. Maintenant que nous avons signé le communiqué conjoint de Nairobi, nous avons signé le pacte ensemble. Maintenant, il faut travailler ensemble. La CPGL a des programmes d'action. Maintenant, nous pouvons commencer à travailler ensemble. Les gouverneurs des provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, et les gouverneurs de toutes les provinces frontalières, avec nos provinces de l'Est, étaient en réunion à Bukavu, dans le cadre de la CPGR, pour voir ensemble comment harmoniser nos rapports aux frontières, comment faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Magnifique, c'est extraordinaire. Ils se préparent en ce moment à un sommet de chefs d'État de la CPGR. Ils vont se rencontrer bientôt dans un sommet des chefs d'État de la CPGR. Ça sera vraiment la manifestation claire et politique de la relance de la CPGR après tant d'années de problèmes.
Donc il y a espoir que la paix reviendra
le signal
dans la région des Grands Lacs.
À mon avis, c'est un très grand signal. Et c'est un signal qu'on va lancer dans le monde entier. Que finalement, enfin, cette région des Grands Lacs qui a tremblé, explosé pendant des années, que cette région maintenant, enfin, retourne à la stabilité.
Et on n'entend pas plus parler des FDLR?
Ah non, la question des FDLR, la question de la LRA, nous la voyons encore sur la table. Et c'est des gens dispersés dans les bouches. Il y a des opérations en cours qui
n'y a pas. Dispersés, mais ils sont encore actifs.
Ah oui, ils seront actifs tant qu'ils ont des armes et qu'ils brûlent les gens, etc., qu'ils brûlent les villages. Il faut s'en occuper. Et qu'il y a deux, va s'en occuper.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Baudouin Amouli, parlons un peu actualité. C'est comme vous le savez, le chef de l'État a révoqué plusieurs magistrats de leurs fonctions et mis d'autres à la retraite, dans une série d'ordonnances publiées mercredi soir. Hein. À la télévision nationale, il est reproché aux magistrats révoqués d'avoir commis des faits infractionnels graves qui ont été portés à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux hauts magistrats, en l'occurrence le premier président de la Cour suprême de justice et le procureur général de la République, sont aussi concernés par cette série de mesures. Quelle est votre réaction par rapport à ces décisions du chef de l'État de mettre un peu de l'ordre dans la magistrature?
Je crois que quand nous suivons le discours de son Excellence Monsieur le Président de la République le 30 juin, nous pouvons comprendre très clairement que lui-même voulait absolument de l'ordre au niveau de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature, déjà, s'était réuni, je pense, et le Conseil supérieur de la magistrature avait dénoncé les pratiques de certains de leurs comme contraires à la loi et avait proposé au gouvernement de pouvoir prendre des mesures. Et nous sommes contents que le président de la République ait pris ces mesures. Moi, je suis très, très content que ces mesures soient là. Le fait de sanctionner est important. On doit prendre la sanction, que ce soit dans la magistrature, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration publique. On doit sanctionner des gens qui commettent des fautes lourdes. Et on ne peut plus continuer avec l'impunité. Ce que nous espérons maintenant, c'est que les magistrats qui ont été promus puissent pouvoir faire le travail de la manière à atteindre les attentes de la population. Une démocratie ne peut pas fonctionner si le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas.
Voilà, Baudouin Amouli, on a assez parlé comme ça, on va souffler un peu, vous aimez la musique?
Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps de l'écouter, mais je l'aime bien.
Quel genre de musique vous aimez?
La musique congolaise. Comme tout congolais, mais j'aime beaucoup le blues.
Ok. Et
j'aime beaucoup le reggae.
Ah, oh, d'accord.
J'aime le blues parce que j'ai été quand même un peu initié par les Américains que j'ai vus dans ma vie, que j'ai côtoyé dans ma vie. Ils m'ont beaucoup initié à leur musique et j'ai beaucoup aimé le blues. La rumba congolaise, elle est dans mon sang, comme tout congolais.
Bon, moi, je vais vous proposer autre chose. Ni le blues, ni la rumba congolaise, mais une musique de chez vous.
Ah, bien sûr, mais laquelle?
Ben, on va écouter ensemble. Et puis, vous me direz si vous aimez ou pas.
Ok.
Mama shangwe ya hata bale, mama shangwe ya hata bomo. Niki nenga chake mabalume, niki shari chake mabande. Wanda nike unye ipo, ya kukulu kukulira. Kukulu kenda, kwa sabaloma. Ye baba, ye mama, ye wangu. Nari nesaka, ye papa, ye mama, ye wangu. Mama shangwe ya kabare, mama shangwe ya kabora. Nti nenda chake mabalume, nti shari chake mabande. Wanda ibe kuna ikora, ya lukuru nirambi. Kukuru kenda, kasha paloma.
Je ne peux pas boucher la tête, hein. Bonjour, Amouli, vous aimez?
Ah ben oui, ça c'est la musique moderne des Bashi, qui émerge de Genève, de Kivu, de l'est du pays. Et ça doit être un des orchestres qui suit un peu la tradition de Tcholo. Hein. Tcholo a lancé ici, il a terminé l'Académie des Beaux-Arts. Et il a modernisé un peu la musique des Bashi. Et je crois que c'est un de nos deux groupes, parce qu'il y a plusieurs groupes maintenant. Il y a un des groupes, je crois, qui chante et qui chante à Machi et qui modernise qui modernise la musique et les folklores de Bashi. Mm-hmm. C'est très très bon. Je crois qu'on doit faire ça un peu partout, quoi. Vous savez, il y a le folklore de l'Est n'a pas beaucoup d'espace dans les médias du pays. Le folklore de l'Ituri, le folklore du Nord Kivu, Sud Kivu, le folklore du Katanga, ça n'a pas beaucoup d'espace dans les médias. Donc, je pense que ça concourt à la diversité de notre culture congolaise. Et c'est important que ça s'exprime aussi, et qu'on le sente aussi, et qu'on apprécie ça. Tous ensemble, je crois que c'est important. J'aime beaucoup cette musique-là, tout comme j'aime le folklore venant de toutes les autres ethnies de mon pays, de notre pays, que j'aime bien. J'ai goûté à un peu de tout. J'étais dans plusieurs villages de notre pays. J'ai dansé dans les fêtes de mariage, dans les fêtes de baptême, dans toutes les provinces où j'ai été pour le travail d'appui au développement.
Vous avez monté la lecture, Baudouin?
Ah, moi, je vous dis que je suis un homme de lettres.
Vous avez publié même plusieurs ouvrages.
Ah oui, si vous arrivez chez moi, vous voyez ma bibliothèque personnelle, en anglais et en français, donc j'ai quand même pas mal de bouquins. Un intellectuel doit suivre l'évolution des idées dans le monde, des analyses politiques, économiques, à la fois dans notre pays et ailleurs, donc on doit suivre en les publications. Moi-même, j'ai publié en effet, je prépare encore d'autres publications, publier quelques livres.
Dans comment déjà les titres donner sa chance aux Congolais, et aussi un ouvrage sur la société civile, je crois.
Oui. Donner sa chance au peuple congolais, c'est un livre que j'ai publié chez Cartala. Et moi, je
en 2002
En 2002. Et l'approche de ce bouquin, c'est un peu l'approche du développement communautaire. C'est de donner de l'espace et de la voix à ces millions d'associations des paysans, des associations de milieux populaires qui recherchent des méthodes, des cas de s'exprimer, qui organisent leur développement, qui organisent leur lutte pour la participation. Donner sa chance au peuple congolais, c'est un témoignage de ce travail. La société civile congolaise, oui, en effet, c'est un phénomène qui mérite et qui se développe, qu'il faut comprendre. Et moi, j'ai narré à ma façon, avec des collègues, avec Yamba Yamba, avec Professeur Bouchy, nous avons narré à notre façon ce que nous voyons émerger dans la société civile congolaise. Et nous avons pensé qu'il faut donner cet instrument à la société civile du pays pour bien se comprendre. Et d'autres peuvent continuer les analyses, comme vous nous l'avez dit. C'est ça, comme un regard de ce temps-ci, le niveau de développement de la société civile congolaise.
Merci Patrick pour cette belle musique. Baudouin Mouli, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Un message adressé à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, vous en tant que coordonnateur national et président du comité préparatoire national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région de Grand Lac par rapport à tout ce qui se vit à l'est du pays et dans le Grand Lac.
Ce que je dois dire, c'est un message adressé à tous les hommes et toutes les femmes qui ont décidé de contribuer à la construction de notre pays, à tous les niveaux que ce soit. Il faut qu'on continue. Notre pays a besoin des efforts de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons créer notre rêve collectif, le rêve de Lumumba, le rêve de Kassavubu, le rêve de tous les pères de l'indépendance, Kachamura et les autres. Nous ne pouvons créer ce rêve collectif ensemble que si chacun d'entre nous garde présent ce rêve et contribue à le construire. Ce rêve est un rêve d'un Congo grand, d'un Congo uni, d'un Congo qui se développe, où les Congolais prennent en main leur sort. Malheureusement, à cause de toutes ces crises que nous avons eues, nous avons traversé des périodes de pessimisme. Nous avons traversé des périodes où même ceux qui disent qu'ils viennent nous aider nous ont pris le pays. Mais je pense que nous devons traverser cette période et nous assumer. Nous l'avons toujours, notre Congo. On a failli nous le dépiécer. Nous l'avons remis ensemble. Nous l'avons sauvegardé. Il y a certaines tendances qui cherchent à nous les morceler, mais nous essayons de lutter pour le maintenir ensemble. Il faut le maintenir ensemble. Il faut qu'on se batte pour le maintenir ensemble. Mais maintenant, il faut qu'on développe l'intelligence pour mieux l'organiser et le développer. Nous avons les ressources. Dieu nous a donné les ressources. Mais les ressources seront dans le sol et dans la nature si on ne sait pas le développer. Il faut développer l'intelligence. Il faut maintenant développer la technologie, les techniques. Il faut développer le marché, il faut ouvrir les routes. Il faut qu'on améliore nos maisons, qu'on améliore, qu'on produise et qu'on soit compétitif. Tous ces enjeux-là, je pense, sont les enjeux de demain. La paix, bien sûr, la stabilité sont une obligation maintenant, on doit y contribuer. Mais je pense que nous sommes en train de petit à petit de sortir de la période difficile, de la période de turbulence. Nous sommes en train d'y sortir. Et grâce à Dieu, nous espérons que les élections prochaines dans 2 ans vont se dérouler encore mieux et que nous aurons un état plus calme, plus tranquille et que nous pouvons réellement nous assumer comme nation, comme état, dans, n'est-ce pas, la civilisation de la mondialisation actuelle.
Merci Baudouin Mouli, grand témoin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions pour vous Baudouin Mouli Kabarouza, coordonnateur national et président du comité préparatoire national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région de Grand Lac. Merci à Patrick Kiafonga qui était à la réalisation et à la technique. À la présentation, Kéline Côté, retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions des grands témoins. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de Cabaret dans la province du Sud-Kivu et partout dans le monde.